en colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Comment améliorer une société où se développe perte de lien social, manque de confiance et malaise sur le plan politique, économique et social? C'est à cette question qu'ont choisi de réfléchir médecins, philosophes et juristes avec un colloque intitulé « L'homme contemporain à travers la science, la morale et la politique ». Il a été organisé en 3 sessions par Bérénice Tournafon, Edgardo Carosella, François Gros et François Terré. Le 7 juin 2010 avait lieu donc le premier volet consacré plus spécifiquement à la science et Canal Académie vous en propose ici la retransmission en 2 parties. Ici, dans cette première partie, retrouvez les interventions de François Gros et Edgardo Carosella. François Gros est biologiste, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences. Il revient sur la génétique et l'individualité. Et Edgardo Carosella est correspondant de l'Académie des sciences, vice-président du Centre d'études du polymorphisme humain, directeur de recherche au CEA. Il évoque pour sa part le soi et le non-soi. Auparavant, en guise d'introduction, nous vous proposons d'écouter Bérénice Tournafon, co-organisatrice de ce colloque. Elle revient sur la démarche intellectuelle de la mise sur pied de cette journée.
L'organisation de ce colloque se relie, comme tant d'autres aujourd'hui, au caractère extraordinairement aléatoire et imprévisible des émotions et des réactions humaines sous l'effet de la mondialisation, de la technologie et de la remise en cause des équilibres planétaires. D'où l'idée de chercher à mieux élucider ce qui est à l'origine de nos émotions, de la psychologie et plus généralement des comportements humains. Le sujet couvre un domaine scientifique très vaste, puisque nos émotions concernent tout autant la biologie que la médecine, la sociologie, le droit et bien d'autres disciplines encore, notamment l'art, la littérature. Et depuis un demi-siècle, des découvertes scientifiques fondamentales montrent l'importance d'avoir une vision intégrative, multidisciplinaire de l'homme pour arriver à mieux comprendre son comportement, mieux comprendre sa complexité, son individualité et son sens du collectif. Cette vision globale qui nous permet de mieux comprendre l'homme contemporain est sans doute ce qui nous aidera à mieux surmonter les grands bouleversements auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Car au confluent de ces disciplines, nombre de choix de vie ne sont pas nécessairement rationnels et bien souvent sont guidés par nos émotions. Alors, surtout lorsque ces choix sont fondamentaux, comme les croyances religieuses, les convictions politiques ou encore toutes les passions humaines. D'autant plus que ces choix évoluent en permanence et qu'ils dépendent d'une multitude de facteurs, soit internes à l'individu, soit extérieurs. Et c'est déjà ce que nous verrons à l'occasion de ce colloque au fil des interventions. Alors, évidemment, lorsque ces choix engagent des individus isolés, les erreurs d'appréciation peuvent être graves, mais les conséquences seront limitées à la sphère privée. Alors que lorsque les erreurs de ces choix sont collectives, les conséquences peuvent atteindre des millions, voire des milliards d'individus sur Terre et provoquer les horreurs que l'on connaît encore dans certaines parties du monde. Et souvenons-nous de la phrase de Nietzsche, « La folie est rare chez les individus, mais elle est de règle à certaines époques chez les foules. » Alors évidemment, il y a toujours eu des périodes de crise, de grands bouleversements dans l'histoire, et cela a donné lieu à bien des révolutions, des guerres civiles, des famines, des drames en tout genre, car l'on n'avait pas su prévoir ni prévenir ces catastrophes sociales. Ainsi, mieux comprendre l'effet des émotions et des croyances sur le jugement et mieux connaître les aspirations profondes des individus et des groupes sociaux sont d'impérieuses nécessités pour qu'ils se préoccupent de l'avenir. Et tel est l'enjeu du colloque actuel. Alors, dans la première partie de ce colloque, seront évoquées les découvertes scientifiques qui révèlent les liens entre les comportements humains et la biologie, au travers de la génomique, de l'immunologie et des neurosciences. Lesquelles découvertes nous permettent d'avoir une vision plus claire et plus précise de la façon dont nous fonctionnons, tant sur le plan individuel que sur le plan social. Et cela notamment grâce aux nouvelles technologies et aux nouvelles techniques telles que l'imagerie cérébrale, par exemple. L'idée désormais partagée par un grand nombre de scientifiques est qu'il existe un ancrage fort de la psychologie dans la biologie, de telle sorte que tous les domaines d'étude du corps humain mettent de plus en plus en évidence les liens entre le corps et l'esprit et l'environnement extérieur. Ainsi, avec la génomique, le professeur François Gros nous parlera de ce qui est à la source même de notre constitution physique, l'information génétique. L'information génétique qui va déterminer un certain nombre de caractéristiques psychologiques et comportementales, lesquelles vont d'ailleurs s'exprimer ou non en fonction de l'environnement dans lequel nous serons amenés à évoluer. Ensuite, le professeur Edgardo Carosella nous parlera au travers de l'immunologie de ce qui nous est propre, de ce qui fait partie de notre corps et que nous acceptons ou que nous rejetons, et comment, au travers de ces découvertes sur le système immunitaire, nous pouvons avoir une idée plus précise de notre identité, de la façon dont elle se construit et dont elle évolue. Et le professeur Olivier Houdet, lui, nous parlera des connaissances sur la psychologie et le comportement humain au regard des dernières découvertes en neurosciences. Il nous montrera à cette occasion les liens qui existent entre le fonctionnement interne de notre corps et l'environnement extérieur. Ces liens d'interdépendance seront d'ailleurs également envisagés dans les prochaines parties de ce colloque qui auront lieu à l'automne, mais cette fois-ci à travers la morale, puis à travers la politique. Car si l'on entend la morale comme l'ensemble des règles et l'ensemble des valeurs qui définissent la notion du bien et du mal, l'on s'aperçoit qu'elles peuvent avoir deux origines différentes, qui d'ailleurs bien souvent se confondent, l'une interne à l'individu, l'autre externe. En effet, soit ces règles sont le fruit d'un sentiment individuel, subjectif, ce que l'on peut familièrement appeler la conscience du bien et du mal, soit il s'agit d'un ensemble de valeurs diffuses, défendues par la société et ses institutions. Et dans un cas comme dans l'autre, on s'aperçoit que ces valeurs contribuent à façonner notre personnalité et à influencer nos comportements. Ainsi, les sciences humaines, comme la théologie, la philosophie, le droit, entre autres, mais aussi la médecine, nous montrent l'influence de l'empathie, de la charité, de l'altruisme, de l'éthique sur la psychologie, les comportements et sur les relations sociales. Et de plus, les découvertes, notamment en neurosciences, nous montrent, quant à elles, les incidences que ces comportements, que ces émotions vont avoir sur la personnalité, vont avoir sur la constitution même physique de l'individu et par conséquent sur notre bien-être et sur notre santé. Cette vision multidisciplinaire qui nous permet de mieux comprendre les mécanismes d'interdépendance entre l'être, ce qu'il est, et la société dans laquelle il évolue. Ce qui est d'ailleurs fondamental tant d'un point de vue théorique que pratique, puisque ça permet de mieux comprendre et mieux prévenir des comportements violents, égocentrés, destructeurs, ou encore de favoriser des comportements positifs, constructifs, qui sont en principe à l'origine de la création du lien social. Mais bon, encore faut-il le vouloir, car on peut à ce sujet, par exemple, citer une des phrases d'Oscar Wilde qui disait « J'aimerais bien le paradis pour le climat, mais je préfère l'enfer pour la compagnie ». Voilà. Il faut aussi savoir que tout ce que disait Bertolt Brecht dans l'opéra de Katsu, la bouffe d'abord, ensuite la morale. Et j'aurais tendance à dire, et enfin la politique, parce que la politique joue un rôle fondamental dans la défense de ses valeurs et dans la mise en œuvre de ses connaissances, puisque la politique est à l'origine du pouvoir et par conséquent du système de droit. Or, c'est le droit et notamment également les lois qui régissent les comportements entre les individus, qui régissent les relations sociales, tant publiques que privées, qui incitent à des comportements qui seront plus ou moins adaptés à des comportements, mais aussi à des sentiments, voire à des ressentiments. Voilà, et le droit, plutôt, et la science entretiennent des relations assez étroites. Et d'ores et déjà, à l'occasion de cette matinée, le président Laurent de Gauss nous parlera des liens entre la science et la politique de santé et de la difficulté qu'il y a en pratique, d'ailleurs, à les faire coexister le mieux possible. Enfin, François Théré devait conclure sur... de façon plus générale, sur les liens entre la science, la morale et la politique, et qui d'ailleurs, enfin, ces liens sont essentiellement matérialisés par le droit dans un idéal de justice, malheureusement, il ne pourra pas être là parmi nous aujourd'hui, mais ça nous donnera peut-être le temps de débattre un peu plus voilà, sur ce sujet.
Je me présente, François Gros, je suis un biologiste moléculaire et biologiste du développement. J'ai travaillé longtemps à l'Institut Pasteur, ainsi qu'au Collège de France, et je m'intéresse beaucoup à l'influence des gènes sur notre développement et sur nos comportements. Alors, dire en fait que la biologie est une composante importante au fond de notre individualité, c'est faire appel à un lieu commun. Comme chacun le dit, nous sommes certes des êtres pensants, mais comme Pascal l'a rappelé, nous sommes surtout des roseaux pensants, d'où notre fragilité, notre vulnérabilité. Mes collègues, justement Edgardo Carosella, vous parleront davantage de notre moi immunologique, et Dieu sait s'il est complexe et important parce qu'il nous permet justement d'être en interaction avec beaucoup de sollicitations, voire d'attaques du milieu. Puis ensuite, on abordera le côté sans doute très central dans cette affaire du fonctionnement de notre cerveau au cours du développement, depuis le très jeune enfant jusqu'à l'adulte. Qu'est-ce qui nous forge en quelque sorte au cours de notre connaissance et de notre interaction avec le monde? Alors tout d'abord, nous allons aborder quelques données très générales pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers de la biologie et vous êtes grandement excusés, mais en m'excusant en revanche auprès de ceux qui la connaissent bien. Alors, comme chacun sait, notre matériel héréditaire, puis-je dire, ce qui est présent dans nos chromosomes, est en fait lié à un support moléculaire bien connu aujourd'hui de tous pour des raisons qui touchent davantage aux enquêtes policières et qui est l'acide désoxyribonucléique, le fameux ADN, dont la structure a été établie en 1953. Je parle ici de la structure physico-chimique. Une double hélice, mais surtout, pour ce qui nous concerne, une molécule qui est composée d'un alignement de lettres, de petites unités. On les appelle des nucléotides. En fait, elles comprennent une base nucléique. Il y en a quatre, l'adénine, la cytosine, la guanine, la thymine. D'où les lettres ATGC, etc. Et ce qui est important dans cette affaire pour notre propos, c'est que l'alignement, la manière dont la séquence de ces lettres se présente le long de ces très longues chaînes d'ADN, c'est justement ce qui est important, parce que c'est ce qui confère aux gènes leur contenu informatif. Et je rappelle, parce que ce n'est pas évident, que, en fait, comme il n'y a que quatre lettres, pour constituer un texte, un code, et avoir un véritable texte, il faut des mots, il faut que ces lettres soient assemblées en des mots. Et on a découvert, il y a des années, que les mots sont des groupes de trois de ces lettres, des triplets, si vous voulez. Et en fait, le nombre de triplets de quatre lettres étant de 64, il y a 64 combinaisons de triplets, dont 61 ont une signification précise, comme on le verra dans le code génétique. Alors, le génome est donc composé de ces alignements de lettres qui sont présents dans nos chromosomes, chez l'homme dans les 22 paires de chromosomes plus la paire de chromosomes sexuels. Et en réalité, il comprend des territoires, cet ADN et ce génome, qui sont très fascinants et très curieux. D'abord, les gènes eux-mêmes, les 3,5 milliards de paires de bases qui se trouvent ainsi enchaînées, comportent en réalité 25 000 gènes véritables. Par gène, on entend, comme on le verra, des segments de cet ADN, plus ou moins longs, plus ou moins continus d'ailleurs, souvent discontinus chez les organismes supérieurs et réunis par des intercalaires. Et ces gènes, en fait, pris totalement et bizarrement, ne représentent que quelques pourcents de la substance, de la séquence chimique de l'ADN total. Donc 97% de notre ADN, et c'est vrai chez la plupart des mammifères, n'est pas un ADN codant pour des protéines ou des acides nucléiques. On ne peut pas dire qu'il n'est pas génétique, parce qu'il joue des rôles importants, comme on va le voir, mais il n'a pas les propriétés de gènes spécifiques. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ADN non codant ? Eh bien, il est composé de toute une série de choses. D'abord, de structures, de pincements au niveau des chromosomes. Il joue un rôle dans l'architecture de l'ADN qui est assez complexe au niveau du chromosome parce qu'il y a des interactions avec différentes protéines. Et puis, en même temps, il comprend des séquences très bizarres. Ce sont des séquences de 2 nucléotides ou de 3 ou de 4 répétées quelquefois un très grand nombre de fois. On les appelle des éléments répétitifs et ces éléments jouent certainement un rôle majeur justement dans la régulation de l'ensemble du fonctionnement génétique. Alors comment fonctionnent les gènes chez la plupart des organismes vivants ? Quand je dis organismes vivants, bien sûr, ça va des bactéries jusqu'aux organismes supérieurs, qu'on appelle souvent des eucaryotes, dont les chromosomes, matériel génétique, est enfermé dans un noyau cellulaire, alors que chez les bactéries, il n'y a pas de noyau cellulaire. Les chromosomes sont directement en contact avec le reste de la cellule. Eh bien, ce texte ADN, ces gènes, sont lus par la cellule grâce à une machinerie très complexe. Dans un premier temps, l'ADN est copié dans une étape qu'on appelle la transcription. Pourquoi transcription ? Parce que le produit de copiage est une sorte de miroir chimique de l'ADN. Il a exactement le même alignement des bases, la même séquence, mais quelques petites différences. C'est-à-dire, les sucres de constitution sont différents et l'une des 4 lettres ATGC dans la thymine, par exemple, la lettre T est remplacée par la lettre U pour uracile. Donc, c'est une molécule également très longue qui est donc le transcrit, si vous voulez, fidèle de la séquence du gène, mais qui a ce grand avantage sur l'ADN, c'est qu'il n'est pas en double hélice, il n'est pas figé. C'est une molécule simple, simple et lisse, qui a donc beaucoup de souplesse et qui peut ensuite être prise en charge par toute la machinerie cellulaire pour être traduite, d'où la deuxième étape qu'on appelle la traduction en protéines. Je vous rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le code des triplets signifie, dans le langage cellulaire, un élément particulier de nos protéines. Il y a 20 éléments protéiques, 20 acides aminés, et chacun de ces triplets ou codons, comme on les appelle, spécifie un alignement. Alors, ce schéma est évidemment très bien connu. Il a été, disons, établi pendant des années grâce aux travaux de la biologie moléculaire qui ont surtout commencé après, disons, la fin des années 50. Et on en connaît pratiquement tous les détails. Mais s'il est exact, évidemment, dans les grandes lignes, au fond, il ne nous dit pas grand-chose sur ce qui se passe franchement à l'intérieur d'une cellule. Une cellule d'un eucaryote, d'un organisme supérieur. En réalité, depuis les années 80, s'est développée une nouvelle discipline qu'on appelle la génomique. Il y a eu la génétique qui a commencé avec d'abord la découverte des lois de Mendel dans la fin du 19e siècle et puis l'énoncé du concept de gène au début du 20e siècle par Hugo de Vries et quelques autres. Le mot gène qui a été introduit par Johansen en 1904, etc. Puis la génétique physiologique, puis la biologie moléculaire, etc. Mais ce qu'on a fait jusqu'alors, jusqu'aux années 80, c'est prendre quelques gènes comme modèle, en particulier issus des bactéries, parce que c'était plus simple. C'est ce qu'a fait en particulier l'école de Jacob et Monod à l'Institut Pasteur, pour étudier la manière dont ces gènes codent des protéines, mais aussi comment ils sont contrôlés à l'intérieur de la cellule bactérienne. Bon, ça, c'était très bien. Mais quand on prend des cellules d'organismes supérieurs, la complexité est telle qu'il faut prendre en compte d'autres éléments. Et là, l'ambition de la génomique, c'est justement de pouvoir étudier pratiquement presque chacun des composants à l'intérieur de la cellule au niveau de sa séquence, au niveau de sa fonction. D'où l'idée qu'elle s'intéresse au grand sous-ensemble cellulaire. On peut donc dire que la cellule est une petite usine cellulaire. Elle contient des milliers de gènes. L'ensemble s'appelle génome. Ces génomes, comme on vient de le voir, sont transcrits en toute une série d'ARN messagers. L'ensemble de ces ARN ou transcrits, c'est le transcriptome. Donc on s'intéressera au transcriptome vu globalement. Le transcriptome est traduit en toute une série soit de petits ARN, soit surtout de protéines, d'où le protéome. Et l'étude du protéome s'appelle la protéomique. Et on s'intéresse à la manière dont toutes ces protéines sont impliquées dans les principales fonctions de la cellule, soit le métabolisme grâce aux enzymes, d'où le nom de métabolome, ou par l'intermédiaire des anticorps qui sont des protéines, d'où le terme d'immunome, ou bien les kinomes, c'est-à-dire en fait des enzymes spéciales qui jouent un rôle dans la signalisation, la prise en charge des signaux extérieurs vers la cellule, ou encore les protéines de régulation avec le régulome. Et tout ça interagit avec tout ça, si je puis dire, dans des boucles de régulation fermées, et également, bien entendu, et c'est un facteur essentiel, avec l'environnement. Donc vous pouvez comprendre à quel point l'ambition aujourd'hui de la génomique, c'est de se confronter à des milliers de molécules pour pouvoir rétablir en quelque sorte leurs interactions et comprendre dans les détails comment fonctionne le micro-univers cellulaire, puis tissulaire, etc. D'où la nécessité de faire appel à des techniques beaucoup plus complexes, telles que des techniques en particulier analytiques de l'informatique, l'étude précise avec des logiciels appropriés de bases de données. Vous voyez que grâce à des méthodes qui conjuguent la chromatographie sur colonne et l'immunologie, on peut établir pour ces protéines leurs différentes interactions entre elles, ce qui n'était pas possible il y a très longtemps. Et pour ça, il y a donc des techniques extrêmement fines. De même, pour les transcriptomes, on utilise des biopuces d'ADN qui sont fixées sur des supports solides et on peut étudier en une seule étape l'expression des gènes au niveau de milliers d'ARN, etc., etc. Alors, le problème qui nous concerne ici, problème de fond, c'est en quoi justement nos gènes interviennent dans la construction de notre individualité. Et là, donc, nous allons examiner ce problème très brièvement. Tout d'abord, un point important, c'est que l'espèce Homo sapiens, dont on le sait d'ailleurs depuis récemment qu'elle a été un petit peu mélangée à l'espèce néandertal, mais enfin, bref, l'espèce Homo sapiens comprend aujourd'hui 6 milliards d'êtres vivants sur cette planète. On pense qu'elle atteindra le chiffre de 9 milliards vers 2050. Et en réalité, si on examine les séquences chimiques des ADN, c'est la même partout. En réalité, on dit que c'est la même à 99,9. D'autres disent 99,8, d'autres disent 99,5. Donc ces chiffres de quelques pourcents près doivent être pris avec prudence. Mais en tout cas, vous le voyez, globalement parlant, notre ADN est le même partout au niveau des séquences. Nous sommes donc tous parents, ce qui n'a rien d'étonnant puisque c'est une signature de l'espèce Homo sapiens. Cette espèce est apparue, en fait, peut-être il y a 200 ou 300 000 ans, à partir justement des autres espèces comme Homo erectus, l'homme de Néandertal, etc. Et de ce fait, elle n'a pas eu le temps d'évoluer beaucoup au plan de l'échelle justement du temps, puisque l'évolution joue sur des périodes de millions d'années pour la vie moyenne d'une espèce. Donc nous sommes tous parents. Mais ce qui est important pour nous ici, c'est que bien qu'étant tous parents, il y a tout de même ces petits pourcentages de différence qui recouvrent des choses extrêmement importantes au niveau de l'individu. Ce qui nous distingue biologiquement, d'abord les mutations. Alors, tout le monde a entendu parler des mutations qui peuvent être à l'origine, malheureusement, de nombreuses maladies génétiques ou au contraire, pour certaines d'entre elles, nous protéger contre certains types de maladies. Ces mutations peuvent être attaquées, par exemple, un gène particulier être à l'origine d'une maladie correspondante parce que la protéine qui est touchée par la mutation est altérée dans sa fonctionnalité, ou elles peuvent concerner plusieurs gènes dans le cas des maladies dites polyfactorielles qui sont les plus courantes. Plusieurs mutations doivent être en quelque sorte, doivent intervenir pour expliquer ces maladies. Il y a donc, selon les individus, évidemment, il y a ou il n'y a pas telle ou telle mutation. Heureusement, comme on le verra, les mutations sont des phénomènes globalement rares lorsqu'il s'agit de maladies monogéniques, beaucoup plus courants lorsqu'il s'agit de maladies polyfactorielles, parce qu'elles sont plutôt des syndromes génétiques quelquefois que de véritables maladies et elles touchent beaucoup de gens. Le système HLA, je n'ose m'aventurer puisque mon éminent collègue Edgardo Carosella en parlera tout à l'heure, mais il le dira, ce sont des gènes qui ont été en grande partie d'ailleurs, dont la fonction a été élucidée par Jean Dausset et qui jouent un rôle très important dans notre, disons, réaction vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis des greffes, compatibilité ou rejet des greffes, et qui peuvent subir, donc des gènes d'histocompatibilité, qui peuvent subir chez tous tout un tas de petites variations qu'on appelle des variations alléliques. Leur nombre est considérable et le catalogue, plus exactement l'éventail de ces variations, joue un rôle très grand justement aussi dans notre interaction vis-à-vis de toute une série de facteurs de l'environnement. Il y a la répartition des séquences des éléments répétitifs. Alors ça, c'est très important parce que quand on vous parle à la télévision, dans les journaux, d'une enquête policière avec des tests d'ADN, c'est là-dessus que ça repose. C'est-à-dire, nous avons des milliers de petites séquences répétitives, mais le nombre de ces séquences et surtout leur répartition varie beaucoup d'un individu à l'autre. Donc si on coupe tout ça avec certains enzymes et qu'on sépare les fragments, ces fragments n'ont pas la même taille. En regardant justement la distribution en mobilité électrophorétique de ces fragments, on peut justement déterminer l'individualité au niveau de l'ADN. Le polymorphisme, alors, c'est un point très important ici. Il y a quelques années, à côté des mutations qui peuvent changer des portions importantes d'un gène, quelquefois plusieurs séquences, quelquefois même un grand morceau d'une séquence, par exemple des délétions, ou au contraire intégrer des morceaux de séquences dans un gène modifiant son fonctionnement. À côté de ces mutations, existent des variations dans la séquence des ADN de chaque individu. Ces variations sont très importantes. Qu'est-ce que c'est que ces variations ? Les plus originales sont les variations qui se produisent au niveau d'une des lettres de l'énorme séquence parmi les 3,5 milliards de paires de bases. Là où vous aviez une thymine, chez certains, vous avez une désoxycytosine. Là où vous aviez une adénine, vous avez une guanine, etc. Ces petites variations ne changent pas beaucoup la fonctionnalité du gène. Elles sont trop petites pour pouvoir influer directement. Mais leur emplacement, leur nombre, joue des rôles considérables dans l'expression des gènes, dans notre résistance à certaines maladies et aussi, de façon très intéressante, dans notre métabolisme vis-à-vis des produits chimiques et notamment des médicaments. La manière dont nous réagissons à telle ou telle drogue, entre parenthèses, pharmaceutique, dépend bien sûr de la manière dont les cellules de notre foie métabolisent justement ces drogues. Et là, les polymorphismes, leur distribution, qui en fait correspond à peu près à une petite modification d'une lettre, toutes les 1000 lettres de l'ADN sont très importantes. On les appelle des modifications au niveau d'un nucléotide unique, d'où le terme en anglais de single nucleotide polymorphism ou SNP ou encore SNP dans le jargon des généticiens. Et puis il y a les modifications épigénétiques qui touchent non pas le gène directement, mais le chromosome, si vous voulez, la chromatine, ce qui enferme l'ADN au niveau des protéines ou quelquefois le niveau des méthylations. Elles sont souvent transmissibles, pas toujours. Elles jouent un rôle très important dans la reconnaissance distinctive du chromosome paternel et maternel. Elles ont un rôle également très important, sans doute, dans l'émergence des cancers. Donc, ce que l'on peut dire en conclusion, il y a aussi d'autres signes, je n'ai pas le temps d'insister, distinctifs. Nous sommes tous parents, mais nous sommes tous différents. Et ces différences s'observent selon un pattern qui est continu dans l'ensemble de la population. On ne peut pas dire qu'il y a des races, c'est-à-dire les différences entre différentes les distinctions entre différentes ethnies sont souvent beaucoup plus faibles que les différences entre les individus d'une même ethnie. Donc, en quelque sorte, le concept de race n'est pas confirmé par la génomique et par la génétique, mais le concept d'individualité génétique l'est. Alors oui, c'est un petit peu pour spécifier ce qu'on entendait par polymorphisme. Il ne s'agit pas là de double hélice, mais de séquence sur un des seuls brins et comment ça peut varier d'un individu à l'autre. Vous voyez, la séquence supérieure, là, c'est un texte et quelquefois, l'adénine est remplacée par une guanine, la cytosine par une adénine, etc., etc. Mais je n'insiste pas. Alors, en fait, je reviens un tout petit peu en arrière. Nous avons vu que ces polymorphismes génétiques type SNP peuvent moduler le degré d'acuité, de résistance aux maladies, la sensibilité aux médicaments. C'est un domaine nouveau qu'on appelle la pharmacogénomique qui pourrait déboucher sur des traitements pharmaceutiques adaptés en fonction du terrain génétique des individus. Bon, il y a évidemment, ça soulève des problèmes déontologiques, éthiques, mais il est possible que ce soit tout de même une des pistes dans laquelle s'engagent peut-être désormais de nombreuses, disons, firmes pharmaceutiques. Les gènes HLA, j'en ai parlé tout à l'heure, on ne peut pas dire que ce soit des gènes de susceptibilité, là je ne crois pas, mais quelquefois, les allèles de ces gènes, en particulier, il y en a ici quelques-uns qui sont représentés, par exemple, sur HLA-B, la modification qui conduit à l'HLA B27, X88, fait que le B27 augmente, dit-on, de 88-90 fois la probabilité de développer une maladie qui est la spondylarthrite ankylosante, etc. D'autres développent, sont des gènes qui fonctionnent un peu comme des variations alléliques qui fonctionnent un peu comme des gènes de susceptibilité, par exemple vis-à-vis de la rétinopathie, etc., etc. Alors que d'autres formes confèrent certains types de résistance à des maladies transmissibles. D'autres exemples ici. Alors, il aurait fallu consacrer beaucoup plus de temps aux gènes de susceptibilité. C'était ces gènes qui le plus souvent appartiennent à des ensembles qui sont à l'origine pour leur mutation de maladies polyfactorielles. Et le cancer est une maladie génétique polyfactorielle. Vous voyez que, par exemple, le gène APC, lorsqu'il mute, et qui est un gène du chromosome 5, peut donner lieu à une fréquence accrue des cancers du côlon avec polype. Surtout, on a beaucoup parlé, ils ont été découverts aux États-Unis, des gènes BCRA 1 et 2, dont les mutations peuvent être des signes avant-coureurs des formes familiales de cancer du sein ou d'ailleurs de l'ovaire, etc. Nous verrons dans un instant ce qu'on peut dire des gènes de susceptibilité ou de résistance vis-à-vis de maladies neurologiques. Il y a aussi des résistances vis-à-vis de maladies transmissibles à l'égard de parasitoses, de tuberculose, etc., qui ont été identifiées, mais je n'ai pas le temps d'insister. Alors maintenant, un mot des maladies génétiques. D'abord, sachons que dans la plupart des cas, les mutations dont nous sommes l'objet, d'une façon très régulière, n'ont pas d'effet létal, n'ont pas d'effet morbide, ne sont pas responsables de pathologies. Elles sont dites neutres, mais dans quelques cas, elles causent des maladies qui sont génétiques. Ces maladies peuvent être des modifications congénitales qui apparaissent dans une sorte de malformation plus ou moins anatomique, par exemple de l'enfant, ou des maladies du métabolisme, des erreurs de métabolisme, ou des maladies de type neurologique, etc., etc. Ce que j'ai montré ici, c'est que, par exemple, on connaît depuis très longtemps, et c'est là le travail de cet extraordinaire savant qui s'appelait Maupertuis et qui a mesuré justement le méridien, si vous voulez, au pôle, à la demande de l'Académie des sciences au XVIIIe siècle. Et il est également celui qui a décrit pour la première fois la polydactylie. Duchesne a décrit la myopathie dans les années 1870, la myopathie de Duchesne. Darwin ou ses élèves, la dysplasie ectodermique, etc., etc. Et puis, peu à peu, on a découvert des maladies qui évidemment concernaient des problèmes de métabolisme, comme la leptonurie, la phénylcétonurie pour le métabolisme de la phénylalanine, etc. Mais le point important et le tournant, c'est quand on a réalisé avec l'école de Pauling, le grand biochimiste des protéines, que, en fait, ces mutations étaient justement liées à des modifications dans l'ADN. N'oubliez pas que la structure de l'ADN a été découverte en 1953 et que les gènes, eux, n'avaient été découverts qu'en dans les débuts des années 1900. Puis peu à peu, le catalogue de ces maladies s'est enrichi. Il y a aussi des anomalies chromosomiques dont Jérôme Lejeune a été l'un des champions avec la trisomie 21. Alors, d'une manière générale, lorsque les maladies touchent un gène particulier et qu'elles sont dites monogéniques, ces maladies sont rares, avec des fréquences quelquefois non supérieures à 1 sur 100 000. Donc on les appelle quelquefois aussi des maladies rares. Et de ce fait, le nombre de types de maladies, des catégories si vous voulez, ce nombre est élevé. Alors les gens chipotent sur le nombre. Certains parlent de 6000 types de maladies, d'autres sont plus modestes et disent 2 à 3000 types. Enfin, il y en a plusieurs milliers. Alors que les maladies polyfactorielles, le nombre de types de maladies polyfactorielles est beaucoup plus petit, mais elles sont beaucoup plus courantes. Leur fréquence est beaucoup plus grande parce qu'elles concernent des maladies telles que, par exemple, le diabète, l'obésité, différentes formes de cancer, etc., et qui sont davantage des syndromes de différentes natures, qui sont plutôt des maladies, je dirais, de type chronique, en fait. Et l'ensemble des maladies monogéniques, pourtant, est quelquefois très invalidant, et comme il est écrit ici, les maladies sont peut-être rares, mais les malades sont nombreux. Alors, j'aborde dans la dernière partie quelque chose qui, évidemment, sera repris en détail d'une façon certainement beaucoup plus couvrante et instructive par Olivier Houdet, c'est gènes et cerveau. Alors, dans les années 1960-65, aux États-Unis, a été développée une nouvelle discipline qu'on appelait la génétique du comportement, Behavioral Genetics. Et là, certains généticiens, comme Seymour Benzer et d'autres, ont essayé d'étudier des changements de comportement chez l'animal de laboratoire, essentiellement la mouche du vinaigre, la drosophile, ou la souris, en regardant si par des mutations induites, par des rayons X ou ailleurs, ou autrement, on pouvait modifier les comportements. Et vous voyez que certains gènes affectés par certaines mutations, par exemple la mutation dite fruitless, modifie le comportement sexuel de la drosophile. La mutation D4, qui en fait code pour un des récepteurs de la dopamine, un neurotransmetteur, modifie l'activité générale de la souris. Puis il y a des gènes, des mutations uniques qui changent l'agressivité, d'autres l'instinct maternel, etc., etc. Mais quand on regarde les choses de près, il faut être très prudent parce que, en fait, ces effets sont indirects. Il y a modification, certes, d'une cible protéine, qui est un facteur, en général, d'action très ubiquitaire, puis une cascade d'événements complexes qui aboutit peu à peu à l'effet que l'on observe au niveau du comportement. Chez l'homme, on s'est intéressé, pour des raisons évidentes, beaucoup aux maladies dites neurologiques qui ont presque toutes, naturellement, sont liées à des facteurs de l'environnement très importants, facteurs éducatifs, etc., et j'en passe. Évidemment, vous êtes tout à fait conscient de cela, mais qui ont presque toutes une composante génétique. Par exemple, la maladie de Parkinson, comme chacun sait, est liée à la destruction dans la substance noire du cerveau d'une catégorie de neurones, les neurones qui fabriquent la dopamine. Et ces destructions sont probablement la conséquence de l'action de plusieurs gènes, une maladie évidemment polyfactorielle. L'un des gènes clés, le gène dit de la synucléine, c'est une protéine qui est toxique parce qu'elle est capable de former des agrégats insolubles, les corps de Lewis, qui vont en quelque sorte obstruer certaines régions justement corticales, en particulier dans cette région riche en neurones dopaminergiques. Mais il y a d'autres gènes, le gène de la Parkin, ou d'autres gènes encore qui sont exprimés ici. Donc ces maladies sont polyfactorielles. La maladie d'Alzheimer, dont on parle évidemment beaucoup parce que l'espérance de vie moyenne s'allonge, est liée, et je crois que c'est bien connu de tous, à toute une série de facteurs, bien entendu à l'âge, puisque sa fréquence augmente beaucoup avec l'âge. Elle se caractérise par toute une série de syndromes, malheureusement, une perte souvent de reconnaissance de sa propre individualité et des contacts avec le monde extérieur. Et on a vu au plan anatomique, post-mortem, qu'il y avait des manifestations très spectaculaires. Par exemple, là encore, la production de dépôts dits amyloïdes, c'est-à-dire de protéines, la protéine A-bêta, qui a la capacité de former des agrégats à l'extérieur du neurone et d'empêcher à ce moment-là les communications interneuronales. Alors, également les gènes de présénilline, qui sont des protéines des membranes, ou bien les gènes, des mutations dans le gène Tau, qui est à l'origine de la formation de fibrilles, qui, elles, se placent à l'intérieur des conduits, des axones, des gènes, et modifient la transmission synaptique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gènes de susceptibilité nombreux, en particulier le gène de l'apolipoprotéine, le gène APO1, la variété epsilon 4, est une variété qui est plutôt mauvais signe, c'est-à-dire que l'incidence de cette maladie est beaucoup plus précoce, alors que la variété epsilon 2 retarde l'apparition apparemment de cette maladie. La sclérose latérale amyotrophique, certaines maladies à expansion de triplet, dont je vais dire un mot, dont la maladie d'Huntington et d'autres maladies encore. Oui, alors il y a plusieurs maladies dites associées au chromosome X. L'une des plus étudiées, car elle concerne bien sûr les tout premiers stades du développement chez l'enfant et le retard mental qui est lié à l'X, causé le plus souvent par ce qu'on appelle une expansion d'un triplet. Vous avez vu tout à l'heure au début de mon exposé ce qu'était un triplet ou un codon. C'est un groupe de trois lettres qui sont répétées. Les répétitions peuvent être de longueurs très différentes. Normalement, elles sont des longueurs moyennes, mais quelquefois, chez certains individus, à chaque génération, elles s'allongent de façon inconsidérée et viennent mordre en quelque sorte sur des gènes fonctionnels à côté, entraînant toute une série de modifications. D'où le mot expansion de triplet. Par exemple, ici, dans le cas de cette maladie, elles mordent sur le gène FMRP qui contrôle la traduction de certains messagers au niveau de certaines synapses. D'autres mutations contrôlent les phénomènes de migration neuronale, etc. Alors, on s'est beaucoup intéressé aux autismes. On devrait plutôt parler de spectre des autismes, parce que la délimitation des autismes est très difficile. Il y a des autismes propres, dits idiopathiques. Il y a des autismes qui sont liés à d'autres maladies. Il y a des formes atténuées d'autisme, comme le syndrome d'Asperger, puisque dans les autismes véritables, il y a non seulement des défauts de communication de l'enfant avec le monde extérieur, mais surtout des difficultés de langage et d'expression et des comportements plus ou moins stéréotypés, alors que, par exemple, dans le syndrome d'Asperger, le langage n'est pas affecté. Il y a aussi beaucoup d'autres formes d'autisme. Pendant longtemps, on a évidemment glané toute une série d'informations intéressantes sur les autismes, en particulier en étudiant des transmetteurs comme la sérotonine, en étudiant, grâce à l'imagerie cérébrale, la migration des neurones dans certains éléments du cortex, etc. Mais la génétique traînait un peu. Et depuis quelques années, on a découvert aussi des mutations intéressantes. Le 11, ce sont des chercheurs français, en l'occurrence, Thomas Bourgeron. Les gènes dits NLGN3 ou 4, qui sont sur le chromosome X, qui codent pour les neuroligines. Les neuroligines sont des protéines qui sont aux jonctions, à l'adhésion, si vous voulez, entre deux neurones successifs, donc dans une synapse. On a également déterminé d'autres mutations dans le gène, par exemple SHANK3, etc., etc. Et la prochaine diapositive précise un tout petit peu les choses. Vous voyez qu'il y a un neurone dit présynaptique parce que l'influx vient de ce neurone et est envoyé à un neurone postsynaptique par un neurotransmetteur chimique qui agit sur le récepteur, par exemple, de l'acétylcholine quand il s'agit d'un récepteur cholinergique. Et vous voyez qu'il y a des protéines comme les neurexines qui sont présynaptiques, d'autres comme la neuroligine ou SHANK3 qui sont postsynaptiques, mais qui ont également des liens avec l'intérieur du corps neuronal, en particulier le cytosquelette. Il y a encore d'autres protéines qui sont concernées. Donc, on commence à éplucher en quelque sorte la génétique de ces protéines. Et on peut peut-être penser qu'une des explications possibles du déclenchement de ces formes d'autisme, et il y en a certainement beaucoup d'autres aussi, c'est justement des modifications dans l'établissement, voire dans la maintenance de certains circuits ou réseaux synaptiques. La conclusion figure sur la dernière diapositive. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la génétique humaine a aboli le concept de race ethnique, puisque la plus grande diversité, c'est celle qui existe entre les individus. Mais cette diversité individuelle est pour nous ici très importante. Comme je l'ai rappelé, mutations, polymorphismes, répartition des satellites, modification de la distribution des chromosomes, tout ça joue un rôle très important dans la sensibilité aux pathogènes, je n'ai pas pu insister beaucoup, dans l'apparition de diverses maladies qui touchent le métabolisme et aussi dans la réactivité aux médicaments. Ce qui est important ici, c'est qu'il existe évidemment des fondements génétiques de nos facultés cognitives, de nos comportements, mais comme vous le voyez, d'une certaine façon, on peut dire qu'ils sont à la fois directs parce qu'ils sont concrets et agissent sur des éléments de nos neurones et des tissus corticaux, mais ils sont indirects dans la mesure... Alors, ils agissent soit parce qu'ils bloquent le développement cérébral normal, il y a toute une série de gènes de développement qui peuvent être affectés, ils activent le vieillissement neuronal, ils modifient l'intégrité de certains territoires corticaux, par exemple dans le Parkinson. Ils sont probablement responsables de modifications de la formation des réseaux synaptiques, mais au fond, ils n'expliquent pas pour autant naturellement toute la sphère, le plan intellectuel, moral, émotionnel et franchement psychocomportemental de l'individu et en particulier de l'être humain qui lui relève évidemment du monde des neurones. Nous avons 100 000 milliards de neurones. Chacun de nos neurones peut établir jusqu'à 10 000 connexions avec les autres. Je vous laisse imaginer le nombre de possibilités qu'offre ce monde neuronal dont on nous parlera d'ici quelques instants. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, je veux donner la parole à présent au professeur Edgardo Carosella de l'Académie des sciences. Comme je vous l'ai dit, il est vice-président de ce centre très important qui jouxte l'hôpital Saint-Louis, qui s'appelle le Centre d'études du polymorphisme humain. Il est élève du regretté professeur Jean Doucet. C'est un grand immunologiste, un grand spécialiste du système HLA et en particulier de la tolérance fœto-maternelle. Il expliquera d'ailleurs ce problème avec beaucoup de soins. Et il va nous parler du thème « soi et non-soi, immunité et identité ». Voilà.
Il y a trois disciplines en biologie qui peuvent définir l'identité de l'individu. La génétique, l'immunologie et la neurologie. Monsieur François Gros nous a brièvement exposé comment l'identité peut être définie à partir de la génétique. Je vais essayer de vous démontrer comment cette identité qui est évolutive peut être définie à partir de l'immunologie. L'immunologie, quand même, c'est la discipline par excellence qui travaille constamment sur la reconnaissance de soi et de non-soi. Alors, à partir de cela, nous allons pouvoir identifier, la prochaine diapo, les différents types d'identité. On va diviser cet exposé en deux. Une première partie dans laquelle je vais essayer brièvement de vous expliquer comment ce système immunologique fonctionne, comment il est capable de faire sa reconnaissance de ce qui est propre, de ce qui ne l'est pas propre. Et la deuxième partie, à part d'identifier les cinq types d'identité et comment ces constructions de soi s'est fait à niveau biologique. La prochaine diapo. De point l'immunologie, les mots immunité provient, vous le savez, du latin d'immunis, qui était utilisé dans la Rome antique pour définir tout individu qui, d'ailleurs, ne payait pas ses impôts, c'était les sénateurs, donc c'est libre des exceptes de charges. La médecine, il l'a adopté rapidement pour identifier des individus qu'un contact d'une maladie ne la développait pas. Le système immunitaire a une fonction très importante, c'est de maintenir l'intégrité biologique de l'individu. Autrement dit, c'est un peu comme le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense ensemble. Son principe fondamental, c'est de déclencher par l'organisme une réaction de défense contre toute entité qui lui est étrangère. Et cela que nous appelons les non-soi. Alors qu'il tolère toute entité qui lui est propre, c'est-à-dire le soi. Bien sûr qu'il y a de nombreuses exceptions. Par exemple, les bactéries, qui par définition sont de non-soi, et pourtant nous les tolérons. Malgré qu'en nombre, il y a 10 fois plus de bactéries dans notre organisme que nous avons des cellules. La prochaine, notre maître disait, Jean Dosset, l'immunologie est une science de la défense contre le non-soi dans le respect de soi. La prochaine, l'immunologie, le système immune, pour l'essentiel, il est constitué par un certain nombre de cellules que nous appelons T, B, natural killer et cellules dendritiques. La plupart de ces cellules sont fabriquées dans la moelle osseuse. Pour certains, la prochaine diapo, ils sont, quand ils quittent la moelle osseuse, la prochaine, ils sont prêts à l'emploi, c'est-à-dire les cellules naturelles killer, les lymphocytes B, ils peuvent produire des anticorps, des immunoglobulines, et les cellules dendritiques présentent l'antigène. Mais tous ces systèmes avaient soin d'un chef d'orchestre. Et évidemment, comme tout chef d'orchestre, avait soin d'une éducation, d'une formation complémentaire. Ce sont donc les lymphocytes T qui vont suivre deuxième formation, la prochaine diapo, à niveau d'un organe que nous appelons les thymus. Vous le voyez, les thymus, c'est une glande qui se trouve derrière l'esternement dans les médiastins et qui va rentrer, ces lymphocytes T indifférenciés vont rentrer dans cet organe. Et il peut y avoir 2 possibilités. La première, c'est dans cette glande, il y a tous les antigènes de soi, c'est-à-dire tous les antigènes de ce qui nous est propre. Alors, ces lymphocytes T peuvent avoir 2 possibilités. Soit il réagit de façon très forte avec ces antigènes de soi qui sont représentés dans les cellules épithéliales thymiques, et dans ces cas-là, ils vont être éliminés, ils vont être détruits par un processus d'apoptose, apoptose du grec morte programmée, ou ils vont avoir une affinité assez faible et ils vont continuer sa maturation et ils vont terminer pour donner 2 types de sous-populations cellulaires appelées T4 et T8. Voilà ce qui constitue, disons, les effecteurs immunologiques. Mais alors, qu'est-ce que c'est les antigènes de soi ? De même qu'il existe à la surface des globules rouges des antigènes nommés A, B, R, H qui définissent les groupes sanguins et qui permettent la transfusion en état de compatibilité d'un individu à l'autre, il existe aussi dans la plupart des cellules de l'organisme et des antigènes nommés HLA. Ce sont des HLA pour Human Leukocyte Antigen. Mais ces antigènes sont beaucoup plus complexes que les antigènes sanguins. D'abord, il y a 2 groupes, dont les antigènes HLA de classe 1 et les antigènes HLA de classe 2. Nous n'allons pas nous attarder sur les structures, seulement nous allons retenir que ces 2 antigènes sont capables de présenter un peptide. Les antigènes de classe 1, prochaine diapo, ils sont constitués par 3 groupes de molécules. Les molécules HLA A, les molécules HLA B et les molécules HLA C. Mais comme vous voyez, ils sont très polymorphes. Les molécules HLA A, il est constitué de 304 protéines. Les molécules HLA B, de 580. Et les molécules HLA C, de 153. Les antigènes de classe 2 ne sont pas en reste. Ils sont aussi constitués de 3 molécules différentes, de 3 groupes de molécules, nommés DP, DQ, DR. Et comme vous voyez, leur polymorphisme est aussi très important. 400 protéines pour DP, 69 pour DQ, 119 pour DR. Si chaque cellule en plus, ils expriment un antigène qui provient de la mère et un antigène qui provient du père. Ceci nous donne un nombre de combinaisons 2,5 fois plus important que le nombre des habitants il y a sur la Terre. Autrement dit, l'individu est unique. Il est pratiquement impossible, à l'exception de jumeaux, des vrais jumeaux, de trouver 2 individus qui portent exactement ces antigènes que nous appelons des antigènes de soi. C'est une vraie carte d'identité. Ces antigènes, donc, sont des antigènes des différences et des défenses. Mais à l'intérieur, au sens de ces systèmes, il existe un autre groupe que nous, appelons des antigènes non classiques. En effet, particulièrement la molécule HLA-G, il ne s'exprime pas dans toutes les cellules de l'organisme, il s'exprime que sur les cellules placentaires. Son polymorphisme est très réduit, à peine 7 protéines. Et il a une fonction de tolérance. Voilà qu'au sein du même système, il y a une fonction des défenses, des différences et des antigènes en même temps qui sont des tolérances. Comment ça marche tout ça? Eh bien, quand une cellule présente un antigène qui n'est pas de soi, immédiatement, ils vont arriver les cellules T, CD8 et TCD4, ces lymphocytes qui ont eu une formation, une éducation dans les thymus, ils vont s'activer et des effecteurs cytotoxiques vont apparaître. Qu'est-ce que c'est un effecteur cytotoxique? Je dirais qu'un effecteur cytotoxique, c'est celui qui fait les ménages, c'est-à-dire ce qui va détruire ce qui est de non-soi. Pour l'essentiel, il y a deux types d'effecteurs cytotoxiques. Les premières sont les lymphocytes T, qui va réagir quand une cellule porte un antigène qui est différent. Dans ces conditions, quand les lymphocytes T reconnaît un antigène qui est différent, eh bien, il va s'activer et immédiatement va les détruire. Le deuxième groupe des cellules sont les cellules naturelles killer. Comme je vous ai dit, ces cellules n'ont aucune éducation. Et quand ils voient une cellule qui ne porte pas cette carte d'identité ou que cette carte d'identité est modifiée, eh bien, va être activée et détruite immédiatement. Autrement dit, nous avons là deux façons de reconnaître les soies. Les premières, déterminées par les lymphocytes T, qui s'agit par reconnaissance de non-soi. La deuxième, par contre, pour les lymphocytes, des cellules naturelles killer, qui agissent par reconnaissance de l'absence de soi. Voilà, au sein du système immunitaire, deux mécanismes qui sont bien fins et différents. Il y a évidemment que sa reconnaissance s'est produite à travers des récepteurs. Des récepteurs que nous appelons KIR, pour KIR inhibiteur récepteur, que sert l'interaction entre les molécules HLA et les KIR va permettre d'inhiber ces cytolyses. Néanmoins, s'il y aurait la molécule HLA-G dont nous parlions tout à l'heure, va inhiber complètement la cytotoxicité médiée par les deux sous-populations cellulaires. Alors, à partir de cela, nous pouvons donc définir ou identifier plutôt 5 types de soies. Les premières, les soies peptidiques. Eh bien, imaginons que la Vénus a attrapé la grippe. Ces virus de la grippe va y être clivé à l'intérieur de ces cellules et son soi, dont ces antigènes HLA, vont présenter un peptide, c'est-à-dire un tout petit morceau de protéines virales qui représente les non-soi. Évidemment que les lymphocytes T va reconnaître comme de non-soi et il va détruire la cellule infectée. C'est-à-dire qu'il reconnaît la partie la plus infime du soi. Toutes les soies appartiennent à elle et pourtant ces peptides n'appartiennent pas à elle. Les lymphocytes T vont détruire la cellule. Autrement dit, c'est une identité associée à une singularité. Dans le deuxième cas, imaginons que les cellules de Vénus rencontrent les cellules de David. Les cellules de David, ils sont un HLA, un rose, qui les concerne et qui les vient différente des cellules de Vénus. Mais cet HLA, non seulement il est différent, sinon les peptides qu'il présente, il est aussi différent. Dans ces conditions, les cellules T les reconnaissent, ils reconnaissent tout un ensemble et ils détruisent la cellule. C'est-à-dire que c'est une identité associée à une individualité. Maintenant, imaginons que Vénus est devenue un centre de David. Alors, les cellules de cet enfant, pour la moitié, vont exprimer les soies de David, c'est-à-dire la gelade de David. Normalement, les lymphocytes T devaient détruire les cellules de cet enfant. Ceci dit, nous faisons preuve aujourd'hui tous que la grossesse continue et ces cellules ne sont pas éliminées. En effet, c'est dû à la molécule AGLAG. Ces molécules qu'il est exprimée dès la première heure de la fécondation de l'ovule par les spermatozoïdes. C'est là qui va permettre que cet ovule fécondé puisse se nicher dans l'endomètre maternel et bloquer toute agressivité venant du système immunitaire maternel. C'est-à-dire maternel. En effet, cette molécule ne s'exprime que sur les cellules fœtales, mais elle est absente, à différence des autres molécules HLA, des les restes des cellules de l'organisme. Vous pouvez voir là l'endomètre maternel provenant d'une interruption volontaire de grossesse avec toutes ces cellules en couleur ocre qui sont des cellules naturelles killer. Quand nous avons séparé ces cellules naturelles killer et nous les avons mis en contact avec ces cellules ocre aussi fœtales provenant de trophoblastes qui expriment la molécule HLAG, nous avons eu absolument pas de cytotoxicité. Vous voyez, en vert, c'est le pourcentage des cytotoxicités. Il est complètement inhibé. Ça suffisait d'ajouter un anticorps spécifique de la molécule HLAG pour que la cytotoxicité soit déclenchée. Pareillement, dans un deuxième cas, nous avons pris des cellules naturelles killer d'immère et des cellules fœtales d'un autre enfant. Ce qu'on pourrait définir comme une mère porteuse. Nous avons obtenu les mêmes profils. En vert, c'est le pourcentage de cytolyse qui est pratiquement inhibé dans toutes les combinaisons. En rouge, la cytolyse déclenchée par la présence des anticorps anti-HLAG. Autrement dit, cette molécule HLAG devient un égide, un bouclier de la cellule qui les porte. Nous savons que des cellules fœtales s'introduisent dans la circulation maternelle et qui peuvent infiltrer la peau maternelle. Ici, dans une lésion tout à fait banale, que c'est l'érythème polymorphe de la grossesse, nous avons biopsié la peau des femmes enceintes des garçons. Et nous avons pu déterminer, d'abord, à travers ce qu'on appelle une hybridation in situ, qui identifie les chromosomes X et Y, qu'en effet, les cellules maternelles, et vous voyez l'infiltration des cellules fœtales, ces cellules X, Y. En effet, les cellules fœtales infiltraient la peau maternelle et ces cellules exprimaient la molécule HLAG que vous les voyez colorée en ocre. Le plus intéressant, c'est que nous avons biopsié 27 ans après la dernière grossesse, cette femme. Et nous avons retrouvé les cellules de l'enfant chez elle. Autrement dit, la mère ne se sépare jamais des cellules de ses enfants. Autrement dit, cette mère qui a son identité, il a aussi en elle, biologiquement parlant, l'identité de ses enfants. Cette identité, donc, vous voyez, ce système immunologique, il est très précis. Au moment de la grossesse, il va élargir sa fenêtre de reconnaissance pour donner lieu à la conservation de l'espèce. Nous pouvons donc identifier ces soies de l'espèce à une identité élargie. Maintenant, les soies empruntées. Quand les cellules, par exemple les lymphocytes T, rencontrent des cellules APC, se produit une synapsis. Mais dans cette synapsis, il y a un échange des membranes, c'est-à-dire qu'une partie de la membrane des cellules APC vont être greffées en quelque sorte sur les lymphocytes T, un peu comme les boules de savon que font les enfants et que dans l'espace se rencontrent, se touchent et ils s'échangent une partie de leur membrane. Pareillement avec les cellules, ils se rencontrent, ils produisent une synapse et il y a un transfert d'une partie de la membrane d'une cellule à l'autre. Ces mécanismes s'appellent trogocytos. Trogocytos, du grec ancien trogo, grignoter. Mais la membrane, quand il est transfectée, porte avec elle les molécules de la cellule donatrice. Alors, c'est du soi ou de non soi? En effet, là, vous le voyez, par exemple, dans le cas de la grossesse, des cellules fœtales qui expriment HLAG en verte, ils se mettent en contact avec les cellules T, CD4 positif, et au bout de 30 minutes, les lymphocytes T, qui n'expriment absolument pas la molécule HLAG, ils vont exprimer la molécule HLAG. Et de ce fait, ces cellules T qui n'avaient pas une fonction associée à G va devenir tolérante, c'est-à-dire il va acquérir les fonctions de la molécule HLAG. Alors, bon, ça, il devait bouger, mais il ne bouge pas. C'est simplement une image tridimensionnelle. Vous voyez que c'est la membrane qui est infectée, que les molécules sont portées par la membrane et ce n'est pas simplement des membranes qui ont été transférées à les cellules. Dans le cas de la grossesse, ceci elle est très bénéfique. En effet, les cellules T, les cellules par exemple natural killer, que normalement nous avons vu, doit détruire toute autre cellule qui ne porte pas sa carte d'identité, quand il est en contact avec les cellules fœtales, non seulement son activité killer est inhibé, mais en plus, il va acquérir partie de leur membrane et, de ce fait, va inhiber les autres cellules natural killer. Donc, il va augmenter cette tolérance fœto-maternelle. Mais hélas, dans les cas d'un tumeur, quand les cellules cytotoxiques, qui ont comme fonction de détruire la cellule tumorale, s'ils acquièrent l'identité de ces cellules tumorales, eh bien, les autres cellules T, ils ne vont pas pouvoir faire la reconnaissance ou la différence plutôt entre une cellule tumorale et une lymphocyte T qui a emprunté la membrane et il va détruire ses propres lymphocytes T qui sont créant une tolérance malheureuse pour la tumeur qui va progresser. Autrement dit, c'est comme un soldat qui, pour traverser les lignes ennemies, il va se vêtir de l'uniforme de son ennemi. Certes qu'il pourra peut-être traverser les lignes ennemies, mais si entre-temps il retrouve un de ses camarades, il probablement va être éliminé. Cette identité adoptée, c'est soit adoptée, c'est une identité d'altérité, c'est-à-dire les cellules transfèrent, adoptent, même si c'est momentanément, l'identité de l'autre. Vous pouvez me dire, mais alors, qu'est-ce que ça peut nous faire si une cellule ou quelques cellules empruntent l'identité d'une autre cellule? L'individu, pourtant, ne change pas d'identité. Certes, mais les systèmes immunologiques n'agissent pas par reconnaissance d'une identité globale, mais par l'identité individuelle, cellule par cellule. Enfin, nous arrivons à la dernière type d'identité, qui est celle des soi adoptés. Mettons que David, il les donne son bras à Vénus, alors il va y avoir une redéfinition de cette identité. Une redéfinition qui va être un petit peu forcée, car les cellules de Vénus vont vouloir rejeter les cellules, les tissus greffés de David. Néanmoins, nous avons aujourd'hui certains immunosuppresseurs qui induisent l'expression d'HLAG, comme dans la grossesse, et ces tissus seront tolérés de la même façon qu'il y a des autres mécanismes qui vont se mettre en marche pour forcer un petit peu cette tolérance. Alors, c'est une identité redéfinie, un peu comme ça se passe avec les individus qui ont été greffés des visages. Et il y a une fracture identitaire, va avoir une reconstruction de son identité. En conclusion, l'identité immunologique est une identité dynamique. C'est soi, il peut être associé à différents types d'identités. Les soi peptidiques, à la singularité, les soi individuels, évidemment, à l'individualité, celle de l'espèce, à l'identité élargie, les soins empruntés à l'identité temporaire et surtout d'altérité, et les soins adoptés à l'identité redéfinie. Donc, notre maître avait raison, l'immunologie est une science de la défense contre les non-soi dans le respect de soi, mais dont les médiateurs possèdent d'une part une identité tout propre, immuable, certes, mais aussi des identités évolutives et des identités d'altérité. Désormais, il faut donc considérer les soins immunologiques comme un soi changeant. Merci beaucoup.
C'était Edgardo Carosella. Il développait la question du soi et du non-soi. Et puis, vous avez pu entendre également François Gros sur la génétique et l'individualité, ainsi que Bérénice Tournafon sur la démarche intellectuelle de la mise sur pied de ce colloque. Poursuivez par la deuxième partie de la retransmission consacrée à l'homme contemporain à travers la science, avec cette fois-ci Olivier Houdet, professeur de psychologie du développement à l'université René Descartes, Paris 5, et Laurent De Gausse, membre de l'Académie des sciences, président de la Haute Autorité de Santé. Cette retransmission figure dans notre médiathèque et pour rester informé des prochaines conférences, cliquez sur www.hommecontemporain.org. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.